Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, c'est un homme à la fois affable et A, plus loin, fable, car c'est un sacré conteur. Michel Boujenah qui triomphe avec son spectacle « Ma vie encore plus rêvée » est en tournée jusqu'à la fin du printemps. D'ailleurs, vendredi prochain, il est au Théâtre Royal de Mons en Belgique. Mais cet après-midi, eh bien, on oublie la scène, on oublie le rideau rouge et on se parle les yeux dans les yeux.
Europe 1.
D'ailleurs, vous les voyez les yeux de vos spectateurs, Michel Boujenah, dans la pénombre d'une salle de spectacle ?
Oui, je vois tout.
Vous voyez tout ?
Je vois tout, je vois les yeux, je vois les pieds, je vois les chaussures, je vois les lunettes, je vois tout.
Vous voyez le cœur qui vibre, qui bat.
Ça, je le sens. Heureusement que je ne le vois pas.
Bon, Michel Boujenah, d'abord, bonjour. Il faut être un sacré menteur, un sacré rêveur, ou avoir sacrément besoin d'émerveillement, donc être finalement un poète de la mythomanie, pour écrire son autobiographie imaginaire.
Ben oui, qu'est-ce que je vais dire sur ma vraie vie ? Ma vraie vie, elle n'a aucun intérêt. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Dans ma vraie vie, par exemple, si je parle de choses qui me touchent au premier degré, par exemple, si je parle de l'immense souffrance pour moi d'être un sexe symbole, c'est pas possible. D'abord, je vais provoquer des jalousies. Vous voyez ? Et ça, je veux pas. Et ensuite, si je dis que je voudrais enfin qu'une femme s'intéresse à moi pour mon argent et pas pour mon corps, parce que je suis fatigué, vous comprenez ? Ça n'a aucun intérêt. Donc, je préfère rêver ma vie. Et plus sérieusement, je pense que si on rêve pas, on n'avance pas. Il faut rêver sa vie. Et parfois, de temps en temps, il nous arrive de vivre la vie qu'on rêve.
Donc, vos rêves vous ont amené là où vous espériez arriver ?
Mais bien sûr. Combien de fois on a dit dans la vie, et ça, j'en avais rêvé. Ce moment-là, je l'ai rêvé, mon amour. J'ai tellement rêvé d'être avec toi au bord de cette plage. Bon, maintenant tu me quittes. Mais avant, j'ai rêvé que ce soit bien. Eh bien, c'est arrivé. Donc, rêver, c'est tellement important.
Mais alors, le premier spectacle, Michel Boujenah, compté comme une autobiographie imaginaire, déjà, est né en 2014. Il avait pour titre « Ma vie rêvée ». Le nouveau, avec lequel vous êtes donc en tournée jusqu'en juin, s'intitule « Ma vie encore plus rêvée ».
Oui, parce que je me lâche.
C'est ça, finalement, qui sauve les artistes. C'est savoir s'affranchir de la réalité.
Ah ben,
parce qu'on n'en est pas tous capables.
Indispensable. Mais c'est pour ça que le public aime aller au cinéma ou au théâtre. C'est pour cette raison-là. Jean Valjean, il n'existe pas. Jean Valjean, il n'existe pas. Il a été inventé par Victor Hugo. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais attention, ça va vous faire un choc. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Superman n'existe pas. Spider-Man n'existe pas. Tout ça, c'est des héros. Inventés par les hommes pour rêver. Mais en même temps, c'est des personnages qui traversent le temps. Pas seulement Jean Valjean, mais Lucien de Rubempré aussi. Pas seulement les héros de bande dessinée, mais les héros des romans.
Alors, revenons justement à ce nouveau spectacle baptisé « Ma vie encore plus rêvée ».
Oui, docteur.
Bah, forcément, j'imagine, Michel Boujenah, que votre public, pendant une heure et demie, tente de démêler le vrai du faux.
Mais non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, le public, pour le public. Tout est vrai. Tout est vrai.
L'important. Ou tout est faux.
Ou tout est faux, mais ça n'a pas d'importance. Non, il y a une chose qui est vraie. C'est la sincérité avec laquelle je raconte ce que j'invente. C'est les émotions qui sont dedans. Quand je dis, par exemple, qu'à 10 ans, je réveillais mon père à 4 heures du matin pour lui dire à quoi ça sert de vivre si à la fin c'est pour mourir, pourquoi la vie est éphémère et la mort éternelle. Putain, vous imaginez qu'à 10 ans, je suis allé réveiller mon père à 4 heures du matin pour lui dire ça, mais il m'aurait tué d'abord. Le père, d'ailleurs, du spectacle, il a envie de le tuer, son fils. Mais c'est des questions que je me pose sincèrement. Vous comprenez ? Quand je dis que quand j'étais petit, j'allais à la pêche, tous les poissons sortaient de l'eau pour me dire « Je t'en supplie, pêche-moi, moi. » Évidemment que je ne l'ai pas vécu.
Alors, c'est pas tout à fait faux ni tout à fait vrai, parce que vous adoriez vous évader seul sur une minuscule embarcation au large pour pêcher, mais vous n'avez jamais réussi à en remonter un.
Non, cet été, pour la première fois en 10 ans, j'ai monté un poisson sur le bateau. C'était une dorade coryphène. Mais c'était une dorade coryphène qui était, à mon avis, suicidaire. Et ensuite, elle devait avoir 2 mois. Donc, on l'a rejetée. On l'a nettoyée, on l'a embrassée, on l'a remis à la mer parce qu'elle était toute petite. Mais sinon, non, je suis le pêcheur le plus nul du monde.
Michel Boujenah, dans votre spectacle, Entre le vrai et le faux, par exemple, consoler un psychanalyste, ça vous est arrivé ?
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand j'étais en analyse pendant 6 ans. Ça, c'est vrai. Ma psychanalyste, au bout d'un an, c'est ce qu'elle m'a dit ?
Oui.
Elle m'a dit, vous savez comment elle s'appelait, ma psychanalyste, en vrai ? Bon, elle est montée au paradis maintenant, donc je peux le dire. Il y a prescription. Elle s'appelait Barge. Pour une psychanalyste, c'est incroyable. Et Et au bout d'un an, elle m'a dit, bon, vous êtes drôle. Ensuite, mais non, évidemment que dans ce spectacle, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une vieille dame qui va voir un psychanalyste. Elle ne va pas voir un psychanalyste parce qu'elle souffre. Elle va voir un psychanalyste parce que son mari lui dit, tu vas devenir folle, va voir un psychanalyste. Elle n'en a rien à foutre. Elle tombe sur un type qui est triste, qui est malheureux, elle lui donne un beignet, il sourit. Et quand il sourit, ce type, il ne peut pas maîtriser ce qu'on appelle le contre-transfert. Il se met à lui raconter sa vie. Parce qu'il est en face d'une mère légendaire, d'une mère mythique, d'une femme qui est capable de tout entendre. Et
alors là, on est dans le vrai. Il s'agit de votre mère à vous.
Non !
Ultra aimante,
non,
ultra
ma mère à moi. Ma mère non. À moi. Il lui faut 9 psychanalystes à ma mère à moi. Et vraiment, et des psychanalystes pour la soigner. Parce que ma mère, elle est folle.
Mais elle ne pouvait pas tout entendre de son fils ?
Non, vous rigolez. Non, ma mère, non. Ma mère. Je vais vous raconter. Ma mère, elle a 94 ans. D'accord ? La dernière fois, elle reste coincée dans l'ascenseur. Elle est entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Parce que c'est une vieille dame pour monter. Il y avait une dame qui lui tenait la compagnie à travers la porte en disant « Vous inquiétez pas, les pompiers, ils arrivent. » Et tout ça. Et puis, les pompiers, au bout d'une heure, ils arrivent. Le mec, il arrive à ouvrir la porte. Le pompier, ma mère, lui met une claque. Il lui fait « Mais madame, je suis venu vous sauver. » Elle fait « Mais vous en avez mis un temps. » Alors, si vous croyez que ma mère n'a pas besoin d'un psychanalyste, vous êtes folle. Donc, non, c'est pas ma vraie mère. C'est Arlette, c'est un personnage légendaire. C'est une légende pour moi.
Arlette Boutboul.
Oui, pour moi, c'est des légendes. Simone, Arlette, c'est des légendes. C'est des personnages que j'ai inventés. Alors, de quoi je les ai inventés ? Comment on invente les personnages ? D'où il sort Jean Valjean ? Comment les choses se construisent ? Elle s'est fait de plein de choses, de choses qu'on n'a pas eues, de choses qu'on rêve d'avoir, de fantasmes. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Jean Valjean, il est puceau. Si vous lisez bien Les Misérables, il est puceau. Victor Hugo était obsédé sexuel. On le sait. Il y a un livre qui s'appelle La vie amoureuse de Victor Hugo, je vous le conseille. Chaque fois qu'il tirait un coup, il mettait une croix. D'accord ? Il a inventé un mec qui vit dans l'injustice absolue, parce que lui, il se sentait condamné injustement, et qui est puceau. Il nous prend pour des cons.
Europe 1. Une très courte pause. Cette conversation est prometteuse. Je vous garantis qu'elle va avoir un sacré relief. On revient tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
C'est Michel Boujenah qui se prête au jeu des confidences cet après-midi dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet retrace son parcours jusqu'à 16h sur Europe 1 à l'occasion d'une actu théâtrale.
Vendredi et samedi prochain, Michel Boujenah est sur scène en Belgique, le 25 à Mons, le 26 à Arlon, pour son spectacle baptisé Ma vie encore plus rêvée. Mais cet après-midi, eh bien, on fait ensemble l'école buissonnière. Alors, cher Michel Boujenah, votre frère aîné, Yves Boujenah, affirme que vous étiez un enfant extrêmement bavard, ça, on l'imagine bien, mais triste. Il dit vrai, le frère aîné, ou bien il faut nuancer ?
Non, il n'a pas tort.
Un enfant
je suis toujours triste.
Toujours.
Là, je ne suis pas triste parce que je suis avec vous. Non, mais il y a du monde. Mais vous m'auriez vu cette nuit à 4h du matin, vous auriez dit, c'est pas le même. Non, je suis triste. Ouais, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est ce que je me disais ce matin, très tôt à 4h du matin, assis sur le bord de mon lit, en me disant, mais bon Dieu, tu ne devrais pas être comme ça, pourquoi tu es comme ça ? Alors, il y a une petite raison, il y a une idée qui me manque, que je cherche, qui m'énerve, que je n'arrive pas à trouver. Mais ce n'est pas très grave. J'ai 66 ans, j'ai commencé à faire ce métier, j'avais 14 ans. Des moments où les idées me manquaient, où je les ai cherchées pour pouvoir les trouver. Parce qu'on ne les trouve pas si on ne les cherche pas. Il y en a eu plein. Ce n'est pas grave. Je ne devrais pas être triste.
Mais vous l'étiez déjà enfant.
Toujours.
Alors, je voudrais savoir, cette mélancolie, en fait, on ne peut pas dire qu'elle soit venue l'année de vos 11 ans, celle de l'arrachement définitif à votre terre natale,
non,
la Tunisie.
Avant. C'était avant.
Déjà, vous l'étiez auparavant.
Ouais. Il y a une photo de famille. On est 4 garçons. Hein.
Ouais.
Eh bien, ils sont tous les 3 d'un côté et moi, je suis un peu à l'écart. J'ai quand même ma main sur l'épaule d'un de mes frères, mais je suis à l'écart. Et j'ai un regard d'une tristesse.
Donc,
absolue.
Un enfant triste et solitaire. Parce que tout à l'heure, je parlais de la pêche. Il paraît qu'à 9-10 ans, vous laissez effectivement Michel Boujenah partir seul à 2-3 milles des côtes dans une minuscule barque sous prétexte de pêcher. Votre mère vivait ça sereinement ? Et que disait le docteur Boujenah, votre père ?
Bah, mon père, c'était un champion de natation. Il nous avait tous appris à super bien nager. Voilà, j'étais quand même pas... En pleine mer, hein, 3000 nautiques, c'est 4,5 km. J'étais quand même...
C'est déjà... Ouais, on peut dire pour le renfort.
On était dans une baie assez protégée, je veux dire. C'est pas complètement fou. De toute façon, j'ai toujours eu le sens de la mer. Toujours. C'est comme ça, c'est inné chez moi.
Vous continuez de naviguer, n'est-ce pas ?
Bien sûr, je n'arrêterai jamais. Mon rêve, c'est de traverser l'Atlantique, mais bon.
Alors, retournons justement vers cette Tunisie de l'enfance.
Paris,
ouais. On entend bien. La Tunisie, vous en parlez toujours comme d'un monde parfait et béni des dieux, parce que dans les années 50, vous dites que toutes les religions, en fait, semblaient y vivre en totale harmonie. Vraiment, Michel Boujenah.
En tout cas, il faut faire une différence. Il faut faire une différence entre l'histoire avec un grand H et l'histoire avec le petit H. Moi, j'ai connu le petit H. Mon père, il a connu les deux. Mon père, il s'est battu pour l'indépendance en Tunisie. Il était tunisien avant tout. Il a milité avec Bourguiba. Bon, ça, c'est la grande histoire. La petite histoire, c'est quoi? C'est des gens qui vivent dans le même quartier, qui naissent dans le même quartier, qui meurent dans le même quartier, qui se connaissent depuis toujours, qui partagent les peines, les joies.
Et qui, malgré des cultures différentes, tissent des amitiés.
Exactement.
Réelles.
Et ça, c'est vrai. Je veux dire, les fêtes du Ramadan, c'était un bonheur. Kippour, moi, j'avais des copains musulmans qui jeûnaient à ce moment-là avec moi. Noël et le jour de l'an, on le faisait, mais on faisait aussi Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif. Et puis, c'est de l'enfance dont on parle. Et dans l'enfance, ces tensions qu'il y a pu avoir à des moments donnés de l'histoire, on ne les voyait pas.
Oui,
nous.
Ils vous échappaient.
C'est comme les gosses des banlieues aujourd'hui. Moi, j'ai plein de copains qui ont vécu en banlieue, qui sont nés en banlieue et qui ont 50 balais aujourd'hui. Mais ils te disent, mais nous, les Portugais, les Blacks, les Feuges, les musulmans, on était tous ensemble. Et c'était nos frères. C'était pas du tout l'image qu'on a, hélas, aujourd'hui, ou à cause de la grande histoire. Les clivages ont commencé à arriver, les haines ont commencé à arriver, mais c'est pas le fruit des comportements des gens. C'est le fruit de la grande histoire avec un grand H qui marche sur la gueule des gens. Et c'est ça qui est horrible. Donc oui, la Tunisie a été comme ça.
Mais sûr. Alors, Michel Boujenah, comment passe-t-on sans transition du paradis de cette Tunisie de votre enfance à la cité de la Croix d'Arcueil à Bagneux, dans la banlieue sud de Paris?
On devient anorexique. C'est simple.
Vous êtes devenu anorexique?
Oui, je voulais plus manger. Bon, j'étais déjà pas gros. Hein. Mais ça m'a fait tomber malade beaucoup. Je voulais plus vivre. Je voulais plus. Ça m'a vraiment fait mal, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Mais c'est pas grave, je veux dire. Faut pas déconner non plus. On va pas pleurer là-dessus. Je veux dire, quand je vois la vie des migrants, quand je vois la vie des gens en Afrique, quand je vois les enfants soldats, quand je vois les enfants tués au Brésil, quand je vois tout ça, moi,
bien
mon petit
sûr.
Problème...
Mais je parle de vous. J'imagine que longtemps, Michel Boujenah, vous avez fantasmé cette Tunisie de votre enfance qui n'existe plus.
Et ben,
quand y êtes-vous allé pour la dernière fois, par exemple?
Il y a 2 ans.
Et
j'ai joué au Festival de Carthage.
Et qu'avez-vous vu?
La Tunisie d'aujourd'hui. Avec des gens qui ont milité pour que je ne vienne pas, pour me boycotter parce que je suis juif. Mais la grande majorité des Tunisiens et de la société civile qui se sont battus pour que je vienne. Et j'ai quand même joué. Bon, j'ai joué un peu sous haute sécurité, mais j'ai joué. J'ai joué, le théâtre était plein, en plein air, c'était magnifique. Au pied de la basilique de Carthage, au pied de la basilique de Saint-Louis, avec la mer derrière moi, c'était hyper émouvant. Parce que ça faisait un bout de temps que je n'étais pas allé jouer. Mais il n'était pas question que j'annule. Annuler ma représentation au Festival de Carthage, c'était une défaite. Non, c'est ma terre natale. Je suis franco-tunisien. J'ai mon passeport tunisien. C'est chez moi. J'ai le droit d'y aller. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le ministre du tourisme tunisien, c'est un juif de Djerba. Vous voyez? C'est extraordinaire. Ça vient. Faut pas condamner la Tunisie. Je vous jure. Je vous rappelle qu'en Tunisie, c'est peut-être le pays, par rapport à la France, par exemple, il y a eu moins d'attentats, moins de morts par les attentats qu'en France. Il n'y a pas de compétition, le problème n'est pas là. Mais quand on décrit la Tunisie comme un chaos total, il ne faut pas déconner. Je veux dire, on n'a pas de leçon à donner à la Tunisie, surtout en ce moment. Hein.
Sans déconner, quoi. Non, mais c'est vrai, non? Elle a levé les bras.
Moi, à chaque fois, je crois qu'elle veut me prendre dans ses bras, mais ce n'est pas vrai.
Mais c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Si, si.
C'est
et
ça.
D'ailleurs, on va faire une très courte pause, le temps que je prenne Michel Boujenah dans mes bras.
La radio...
La Tunisie, à la banlieue parisienne, Michel Boujenah se raconte, lui aussi au micro d'Isabelle Morizet. Pour nous, cet après-midi, il plonge notamment dans ses souvenirs d'école et de théâtre.
Son nouveau spectacle a pour titre « Ma vie encore plus rêvée » et c'est tout à fait épatant cet après-midi de faire ensemble l'école buissonnière. Michel Boujenah, vous avouez que si vous aviez pu sereinement choisir, eh ben sans doute seriez-vous devenu médecin comme votre père. Mais voilà, un jour... vous avez une révélation qui ne vous a plus lâché. Est-ce bien ce jour de l'année 1967 où, pour la première fois de votre vie, vous avez pris la parole devant un auditoire, fait de lycéens et de profs, afin d'expliquer combien il était nécessaire de plonger dans la lecture du dernier des Justes. Est-ce que vous avez en fait eu une révélation parce que vous avez eu l'audace cet après-midi-là de transformer cet oral pour le rendre sans doute plus vivant et plus intense encore en une sorte, sans vous en rendre compte, en une sorte de one-man show vécu avec une ferveur et une émotion débordante?
Moi, je suis un juif d'Orient, d'accord? Je suis un séfarade. Le dernier juste raconte la souffrance des juifs d'Europe centrale, de Londres, de les pogroms depuis la nuit des temps. Quand je lis ce livre, il y a plein de choses que je ne sais pas sur la Shoah, et sur, même sur les pogroms de Londres au Moyen-Âge, il y a plein de choses que je ne sais pas. Je suis bouleversé. Et je raconte ce livre à la classe, bouleversé de la découverte que je venais de faire.
Vous avez 15 ans, n'est-ce pas?
Ouais. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça m'a bouleversé de le raconter, de pouvoir le partager. Et c'est la première fois que je sentais l'émotion que ça générait pour moi et pour les autres, et l'échange d'émotions que ça pouvait provoquer quand je racontais des histoires. Alors, dans les booms, on arrêtait la musique, régulièrement ils arrêtaient la musique, ils me faisaient faire raconter des histoires drôles avec mon accent. Et tout le monde se mettait en rond, et puis je racontais. Mais j'avais honte un peu, parce que je faisais un peu l'animal de zoo. Je faisais rire avec mon accent, mais au fond, j'avais l'impression de rire aux dépens de moi.
Cet accent qui vous a valu d'ailleurs d'être recalé, n'est-ce pas, au concours d'entrée à l'école du Théâtre National de Strasbourg.
Oui, le deuxième conservatoire national de France. Quand je raconte Le Dernier des Justes, j'ai toujours mon accent, parce que mon accent, il est comme moi, il est là, quoi. Il est plus là quand j'ai 15 ans, parce que ça fait que 4 ans que je suis en France, qu'aujourd'hui.
Mais à la limite, ça légitimise votre récit.
Mais personne ne rit. Personne ne rit de mon accent à ce moment-là. Personne ne rit de mon accent. Moi, s'il y a des acteurs, des jeunes ou des acteurs ou actrices qui m'entendent et qui ont des accents, quels qu'ils soient, de Lyon, de Normandie, du sud, du sud-ouest, de Porto, ne le perdez pas. Je vous en supplie. Ne le perdez pas. C'est, comme dit le poème, c'est un peu de terre de votre pays à vos chaussures que vous emmenez avec vous, l'accent.
Alors, on vient de dire que c'est à cause de cet accent que vous n'avez pas pu intégrer le deuxième conservatoire national de théâtre français. Avec des amis et avec des rêves plein la tête, vous avez fondé votre propre compagnie de théâtre. Pendant près de 7 ans, vous avez ramé avec panache, j'ai envie de dire, Michel Bougenat. Mais je voudrais savoir s'il est vrai que Robert Hossein vous avait conseillé, à cette époque-là, d'abandonner.
Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé d'abandonner. On m'a souvent dit... Ne fais pas l'acteur, sois metteur en scène. D'ailleurs, j'ai commencé par la mise en scène, parce que je n'osais pas jouer. Et un jour, un camarade qui s'appelle Charlie Nelson, qui était dans la troupe, réussit l'entrée du conservatoire à Paris. C'est quand même énorme. On est très jeunes, hein, tous. Mais il quitte la troupe. Et on est à un mois et demi de la création d'un spectacle sur lequel on travaille depuis un an et demi.
Il faut le remplacer, ce sera vous.
Je le remplace. Et Jacques Lanzmann, le frère de Claude, vient me voir jouer, c'était au Théâtre Mouffetard, et il écrit un petit article, tout petit, en disant qu'un jour, je serai connu. Et ma mère, elle me dit, tu vois, c'est la première fois, ne l'oublie pas ça. Et j'ai jamais oublié.
Et ces paroles encourageantes, ça pulvérisait toutes celles qui vous invitaient justement à renoncer, vous écarter de cette voie-là.
Parce qu'on en a eu, hein. Il y avait une critique au Monde qui s'appelait Paulette Godard. C'était la patronne des critiques. Elle avait écrit « Vaut mieux passer devant le théâtre et continuer à marcher
». En parlant d'un spectacle que
qu'on
vous
avait
y donniez.
Ouais. Un massacre, elle nous avait massacré. Et cette femme, on aurait dit un personnage...
Vous l'avez rencontrée plus tard?
Non. Non, moi je fraye pas. Il y a chacun dans son camp. Moi je suis comme ma mère là-dessus. Ma mère, quand un critique, il écrit une bonne critique sur moi, ça veut dire que c'est un mec intelligent. Quand il écrit une mauvaise critique, ça veut dire qu'il est con. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Je suis d'accord avec ma mère.
Et que c'est confortable, la mauvaise foi.
Mais oui, parce que sinon... Mais moi, j'ai connu un garçon de ma génération. Il a voulu se suicider en lisant les critiques sur une pièce qu'il avait écrite. Il a voulu se suicider. D'accord ? Alors, souvent, on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention que le mec qui a écrit, qui a travaillé pendant des mois et des mois pour faire un film, un spectacle, n'importe quoi, on ne tient pas compte de tout ce qu'il a pu mettre dedans. Il a raté son truc. C'est mauvais, c'est pas bon. D'accord. Mais on peut être tendre. On n'est pas des assassins. On n'est pas obligé de lui dire « va mourir ».
Europe 1. Cet après-midi, justement, sur Europe 1, avec Michel Bougenat, on est tendre, on est sincère, on est vrai, on a mille choses à se dire. Alors vous savez quoi ? On fait une pause, Michel, et puis on retrouve nos amis dans un bref instant.
Il est précisément 15h31, il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit avec vous, Isabelle Morizet, et votre invité, le comédien Michel Bougenat.
Michel Bougenat, jamais vous ne vous êtes affranchi donc de vos racines et de votre culture de juif tunisien. Je voudrais savoir s'il est vrai que Coluche, vous avez dit à vos débuts, bon t'es formidable, mais arrête de dire que t'es tunisien, ça se voit.
Bien sûr, et il avait raison. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui, j'en parle plus. Dans ma vie encore plus, vous savez, d'abord je ne parle jamais de la Tunisie. Je dis là où je suis né, parce que le vrai sujet c'est l'enfance. C'est pas l'enfance en Tunisie, c'est l'enfance dans son titre générique. Ensuite, quand je parle des poissons, c'est pas forcément en Tunisie, quand je parle des mères qui, au fond, n'ont jamais été inquiètes, elles nous ont raconté des conneries. Elles n'ont jamais été inquiètes, mais il fallait qu'elles soient inquiètes pour qu'on dise d'elles que c'est des bonnes mères.
Oui, mais enfin, elles rayonnent, les mères juives. Là, oui. Ça veut dire qu'on parle d'une culture dans
mais
son ensemble.
Il y a Daniel Pena qui dit « Toutes les femmes ne sont pas juives, mais toutes les femmes peuvent être mères. » Et il a mille fois raison, dans Chagrin d'école. Il a mille fois raison. Donc, oui, c'est vrai, je dis plus « je suis ». J'ai plus besoin de dire que je suis tunisien, je le suis.
Voilà,
il avait raison, Coluche.
Voilà, on sait que vous l'êtes. Mais alors, je creuse un peu ma question. Pour le métier, il vaut mieux, selon vous, être le fils d'un poète chilien en exil politique en France que juif tunisien ?
Mais bien sûr.
Pourquoi ?
Parce que quand vous venez d'un pays, il y a eu un coup d'État fasciste et que vous êtes le fils d'un intellectuel immigré politique, vous avez un prestige que vous n'avez pas quand vous venez d'un pays qui a été colonisé, que vous n'êtes pas vraiment français. Moi, je suis arrivé en France, j'avais une carte de séjour. Vous êtes forcément un citoyen moins intéressant, vous êtes moins prestigieux, vous êtes moins attirant. Et forcément, le regard qu'on a sur vous est très réducteur. C'est-à-dire merguez, couscous, mon ami, mon tapis. Voilà. Voilà. Et c'était comme ça. Et des remarques du genre, toi, de toute façon, tu vas t'en sortir, tu es bon en affaires. Putain. S'ils savaient à quel point j'étais nul en affaires.
Okay. Ne parlons pas des racines, mais de la passion du jeu et du métier d'acteur. En France, et d'ailleurs, c'est vous qui en avez fait le constat, vous dites que l'image qu'on a d'un acteur normal, c'est celle d'un comédien qui, à 20 ans, peut jouer Roméo, et à 60 ans, peut jouer le Roi Lear. Et c'est pas du tout votre case.
Non. Mais c'est dommage, parce que ça n'était pas avant. Quel est le plus grand acteur français depuis toujours ? Rému.
J'allais vous dire Rému, c'est drôle.
Et bizarrement, il a un accent. Daniel Sorano, qui a été un des plus grands Cyrano, avait un accent. C'est la modernité qui a fait ça, qui a détruit les accents. C'est d'une grande tristesse. On peut jouer Shakespeare en ayant un accent, c'est pas le problème. Avant, en France, vous changiez de région et l'accent était différent. De la Bourgogne à Paris, au sud de la France, au sud-ouest, au sud-est.
Et puis est arrivée la télévision qui a tout laminé.
Exactement. Tous les acteurs avaient des accents. C'était pas gênant d'avoir un accent. Au contraire, aux États-Unis, vous vous rendez compte le nombre d'accents qu'il y a ? Donc, c'est une connerie. Moi, je vais peut-être jouer le marchand de Venise. Hélas, je commence à avoir l'âge du personnage. C'est une très grande pièce. Compliquée, très grande pièce. Jouer le marchand de Venise de Shakespeare, ça sera pas pour moi. Regardez, maintenant, il peut jouer Shakespeare. Même si c'est le rêve de tous les acteurs de jouer Shakespeare. Et que je suis content de peut-être pouvoir le faire avant d'arrêter de faire ce métier. Je le jouerai comme je suis. L'instrument qui jouera le marchand de Venise, ça sera Michel Bougenat.
Et quand vous dites « je le jouerai », c'est quelque chose qui est en train... Là, ça mijote dans un coin de votre tête. Vous avez déjà des dates éventuelles. Vous avez
on discute.
Des contacts. Enfin, vous discutez.
Non, on me l'a proposé. C'est concret. Oui, c'est très concret. Je ne devrais pas en parler parce qu'en général, on ne parle pas des choses tant qu'elles ne sont pas sûres. Mais moi, je m'en fous.
Ici, on peut.
Ouais, non, puis je m'en fous. Je veux dire, peut-être on aura marqué plus tard. Ah, il a failli jouer le marchand de Venise. Non, c'est très concret.
On abandonne Shakespeare, cher Michel Bougenat, pour revenir à l'humour. Parce que avant vous, dans la veine de cet humour, j'ai envie de dire réchauffé au soleil de l'Afrique du Nord, il y avait Robert Castel, il y avait Guy Bedos, puis on a vu éclore Gad Elmaleh, Elie Semoun, Danny Boone, Harry Habitant, Kev Adams, face à vos frères d'ailleurs dont l'origine géographique était la même mais avec une autre culture et tous embarqués par Jamel Debbouze. Donc comment expliquez-vous que l'Afrique du Nord soit un tel vivier d'humoristes pour la France ?
Quand vous prenez des communautés où il y a de la douleur, où il y a de la nécessité de survie et qui veulent exister, eh ben, ces communautés génèrent forcément de tout. Des médecins, des hommes d'affaires, mais aussi des humoristes. Et en général, plus la communauté est une communauté qui est plus ou moins défavorisée, plus il y aura d'humoristes. C'est comme ça. C'est moi qui ai écrit. Les milliardaires, ils sourient que quand ils se brossent les dents. Les pauvres, ils rient, ça coûte pas cher. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour monter sur une scène et raconter des histoires.
D'ailleurs, j'ai appris qu'en moyenne, rien qu'à Paris, 150 one-man shows se jouent
oui,
chaque
c'est
jour.
Dingue, c'est dingue.
Le rire est devenu une industrie.
Oui, complètement. Mais ça, c'est la télévision. Alors, là-dedans, il y a des gens qui ont énormément de talent, il y a des gens qui l'ont moins, mais ça n'a pas d'importance. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de jeunes humoristes qui ne réfléchissent pas toujours quand ils parlent. Parce qu'on est dans le moment de l'immédiat. De Twitter, de Facebook, de tout ça, d'Instagram. Donc, ils vont très vite. Et ils vont très vite et réagissent parfois souvent à chaud. Et souvent, ça leur arrive de dire des conneries et des choses fausses. Et ça peut être très dangereux. Mais, malgré ça, quand je vois des gens comme... Bon, Alex Lutz, maintenant, c'est une grande vedette. Mais je l'ai vu démarrer. Il n'est pas si vieux que ça. Mais quand je vois Blanche Gardin, par exemple.
Fabuleuse.
Ou Alex Vizorek. C'est merveilleux. Et puis j'en vois d'autres qui sont très populaires, mais qui surfent sur une vague qui est très fragile, parfois un peu malsaine. Il y en a qui ne se rendent pas compte, mais ils se servent de l'humour comme alibi pour dire n'importe quoi. C'est pas, non, c'est pas vrai. On peut rire de tout, mais pas n'importe comment.
Oui, vous, quand il faut... vous nuancez la phrase de Desproges.
Oui, surtout en ce moment, c'est comme ça que ça doit se passer. Si le sujet est fragile, compliqué, sensible, il faut faire rire fragile, compliqué, sensible. Et si on ne sait pas le faire, ben on ferme sa gueule. Moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un humoriste qui a dit, ouais, à propos des Gilets jaunes, qui a dit, ouais, le pouvoir s'étonne de la violence des Gilets jaunes, mais il oublie qu'il lui a envoyé des gaz lacrymogènes. Mon cul, oui. Mon cul, les mecs qui cassent, ils ont des casques, ils ont des masques à gaz pour ne pas être gênés par le truc. Ça, ils n'ont rien à voir avec la dame qui est retraitée, qui se bat parce qu'on lui a piqué de l'argent sur sa retraite pour les gens qui n'ont pas d'argent pour manger. Les mecs qui vont à la bagarre et qui sont dans la violence, c'est des mecs qui sont super organisés, qui cachent les barres de fer un peu, même avant les manifs, dans des endroits où ils peuvent les récupérer quand ils sont dans des trucs filtrés. Ils sont organisés de manière militaire. Et ce jeune humoriste, il dit ça. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit que si c'est violent, c'est juste à cause de la police. C'est faux. Et en plus, c'est des gens qui font du mal au mouvement des Gilets jaunes, les gens qui cassent comme ça. Donc, cet humoriste, il justifie ça. Mais il ne se rend pas compte, comme ça fait marrer.
Il en profite. Alors vous qui n'avez jamais, en fait, écrit vos spectacles sur l'actu, cette fois-ci, vous osez parler de politique.
Un petit peu.
Un petit peu.
Ouais, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Je veux dire, l'humour permet pas tout. L'humour, c'est un art. C'est une merveille. Ouais, moi, je suis incapable de faire ce que fait Blanche Gardin. Elle est super trash. Bon. Mais c'est intelligent. Alors ça, c'est du haut niveau. Ça, c'est du bonheur. Lutz, c'est du bonheur. Et il y en a d'autres. Hein. Voilà. Je ne sais plus où était la question, de toute façon, on s'en fout.
Mais on devise, on chemine, on se dit mille choses, et puis ça rebondit, et c'est parfait. On fait une pause, on se retrouve tout de suite avec Michel Bougenat.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
La même envie de se plonger dans l'histoire de ses invités pour un moment d'écoute, de curiosité saine et d'empathie. Isabelle Morizet reçoit Michel Bougenat à l'occasion d'un spectacle.
Le spectacle avec lequel Michel Bougenat est en ce moment en tournée a pour titre « Ma vie encore plus rêvée ». Et cet après-midi, il est mon invité, Michel Bougenat. Est-ce qu'après plus de 40 ans de scène, l'ego du comédien que vous êtes serait plus caressé par ce Molière que vous n'avez pas encore obtenu qu'il ne l'a été peut-être par les deux Césars que vous a déjà remis le monde du cinéma?
Ah bah ouais, j'aimerais bien. J'aimerais
c'est
bien.
Vrai
ouais, ça me ferait plaisir. Ouais. Ouais, je peux pas mentir, ça me ferait plaisir, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être ils vont m'en remettre un au moment où je vais mourir.
Non, lorsque vous jouerez Le Marchand de Venise.
Ah oui, oui peut-être. Mais j'aurais aimé que ce soit Maxo Boutboul qui est un Molière, vous voyez ?
Ça aurait été chouette de lui remettre à lui. Hein ?
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je suis quand même beaucoup gâté.
Alors, quittons la scène et parlons cinéma. Michel Bougenat, pourquoi ne jouez-vous jamais dans les films que vous écrivez et que vous réalisez ? Danny Boone est au cœur de ces films, Michel Bougenat, jamais ?
Parce que j'adore regarder. Je ne suis pas voyeur au sens malsain du terme. Mais le cinéma m'a permis pour la première fois de ma vie de regarder. C'est-à-dire, j'invente, par exemple, dans mon premier film, avec mes camarades avec qui j'écris le film, j'invente un père, avec Pascal Elbé et Edmond Ben-Simon.
Qui va être magistralement interprété par Philippe Noiret.
Et j'ai Noiret pour le jouer. Vous vous rendez compte ?
Miraculeux.
Et je le vois jouer devant moi. Et il est là et il me dit, comment vous voulez, Michel ? Plus comme ça, plus comme ça. C'est magique. Et j'ai des acteurs en face de moi qui sont là pour enrichir, pour apporter de leur sensibilité, de leurs émotions, de leur intelligence. Dans ce que moi j'ai écrit ou dans ce que nous avons écrit, c'est merveilleux. C'est un bonheur pour moi. Si je m'arrêtais de jouer sur scène, oui, peut-être que ça me manquerait. Mais ça ne manque pas du tout parce que j'adore être derrière la caméra. Et puis j'adore les acteurs. J'adore travailler avec eux. Ils me font rire, ils me font pleurer, ils m'énervent. Mais je les adore. J'en suis un. Les acteurs. C'est des gens merveilleux. Je ne me lasse jamais de regarder des films avec les acteurs que j'aime. Vous voyez ? Alors quand je suis metteur en scène au cinéma, là j'écris un film sur deux frères. Bien sûr qu'à la limite, en cherchant bien, je pourrais jouer un des deux frères.
Mais vous ne le ferez pas ?
Non. Non, sauf s'il n'y a pas d'acteur. Mais s'il n'y a pas d'acteur, que tous ils me disent non, je vais me dire, bon, mon scénario
ne vaut pas le coup.
Il est nul, vous voyez ?
Alors, j'allais vous demander si le grand film signé Michel Bougenat, l'œuvre, j'ai presque envie de dire testamentaire, qui pourrait être celle d'une vie, elle mijote dans votre tête. C'est toujours le prochain film, en fait.
Non.
Non ?
C'est concret, là. Ce n'est pas le prochain film que je suis en train d'écrire.
Mais c'est la grande œuvre.
Je suis sur le projet qui pourra peut-être me permettre de le faire. On est en train de faire un protocole d'accord pour signer le développement de l'histoire. Et c'est un producteur que j'ai croisé. On se connaît, on s'aime bien. Et il me dit, il faut que je te parle. Il faut que je te parle de ça. Il faut que tu fasses ça maintenant. Qui est ton agent ? Je vais l'appeler. Et depuis, on s'est vu 3 fois. On a parlé de ce projet qui sera immense, énorme. Et c'est très émouvant pour moi parce que vraisemblablement, c'est un travail qui va me prendre peut-être 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre de le faire. Je me le dois. Je le dois à mes frères, je le dois à mes enfants, je le dois à mes petits-enfants, le jour où j'en aurai, si j'en ai. Mais je le dois aux autres. Je dois le faire.
Donc on ne peut pas avoir l'idée de l'ombre du début.
Non, pour l'instant, non. Franchement,
non, il ne dira rien.
Mais je peux vous dire un truc, c'est que vous ne serez pas du tout étonné de savoir ce que c'est. Pour moi, c'est énorme. Peut-être que pour vous, ça sera anecdotique. Mais pour moi, c'est énorme de travailler sur ce projet. Vraiment énorme.
On fait une pause. On retrouve Michel Bougenat.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Depuis 15 heures, il évoque son enfance, ses souvenirs, son regard sur le métier d'acteur et d'humoriste. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Dernière partie, on retrouve Isabelle Morizet et son invité Michel Bougenat.
Michel Bougenat, ça fait 12 ans que vous avez succédé à Jean-Claude Brialy pour donc devenir le directeur de l'un des festivals les plus magiques de l'été, le festival de Ramatuelle, qui programme dans un théâtre de verdure vraiment de toute beauté, les artistes les plus divers, en allant par exemple de Francis Cabrel à Alex Lutz, en passant par les pièces de Yasmina Reza. Alors, comment devient-on un patron quand fondamentalement on est un artiste ?
Mais je ne suis pas un patron, madame.
Et alors, comment faites-vous pour si brillamment diriger
d'abord
tout ça ?
D'abord parce que moi, j'ai quelqu'un derrière moi qui est la présidente du Festival Ramatuelle qui s'appelle Jacqueline
Franchot.
C'est la patronne. Et ça m'arrange que ce soit la patronne. Je suis très très content que Jacqueline soit là, parce que sans elle, moi, je ne pourrais pas faire ça. Moi, qu'est-ce que je suis ? Je vais voir les spectacles, j'essaye de construire une programmation cohérente, belle, tendre, drôle, émouvante, qui va plaire au public. Et parfois, Jacqueline me fait « Non, pas ça. »
Ah, vraiment ?
Bah oui, parce qu'on ne peut pas, parfois. Il y a des spectacles que j'adore, mais on sait qu'on ne va pas remplir. Mais nous, on est obligé de remplir. Parce qu'on est un festival, je disais tout à l'heure, privé.
1200 places, c'est ça ?
Ouais, mais on est obligé de remplir.
Dans des gradins.
Ouais, c'est magnifique, c'est un endroit merveilleux. Cabrel, Francis, pendant 10 ans, parce qu'on partage le même bureau.
Ouais.
Pendant 10 ans, je disais, Francis, viens à Ramatuelle. Non, c'est l'été, je ne peux pas. Je le fais avec l'accent corse.
Oui, complètement, Cabrel corse, c'est nouveau.
Francis, non, je suis en vacances. Il est enfin venu cet été. À la fin du concert, il l'a dit au public.
Il ne voulait pas quitter la scène.
Il a raconté que j'avais raison et qu'il avait tort. Qu'il était fou de joie d'être là. Ça, c'est Ramatuelle, pour les artistes. Et pour le public, c'est absolument pareil. C'est un endroit merveilleux, vraiment.
Alors, au milieu de tout ça, Michel Bougenat, il faut vraiment le construire, votre agenda à vous. C'est pas évident. Et cette année, vous nous donnez à la télé deux rendez-vous très inattendus. Le premier, mise en scène par Jean-Pierre Mocky, autour de l'univers de Hitchcock. Ah ouais. Il paraît que vous avez adoré tourner avec Mocky.
Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé.
Et le second rendez-vous, imaginé par vous. Alors, ça aussi, c'est réjouissant. On attend ça au travers d'un programme court particulièrement futé. Vous nous racontez tout ça.
Mocky, on refuse pas un film avec Mocky. On sait que ça va être folklorique, ça l'a été, j'ai beaucoup ri. Un sujet complètement dingue, un personnage à des milliards de kilomètres de moi, alors là on est en
c'est
plein.
C'est-à-dire
ben, je joue un croque-mort. Je joue un croque-mort, et ce croque-mort il est seul, et qu'est-ce qu'il fait? Il veut reconstituer sa famille. Alors de temps en temps, quand il tombe sur un mort qui correspond à peu près à son grand-père ou à sa grand-mère,
il le dérobe.
Ouais, il met du sable dans le cercueil, il prend le corps, il maquille et il met dans sa cave. Et régulièrement, il va dans la cave, il parle avec eux comme s'ils étaient vivants. Il est frappé de la caisse, le mec, d'accord ? Eh bien, j'ai fait ça. Et c'était très amusant. Et l'autre programme, c'est parti d'un truc très simple. Vous savez, dans les dîners, souvent, on dit, mais comment vous vous êtes rencontrés quand il y a un couple ? Et qu'on ne sait pas. On est curieux de la première rencontre. Ouais. On est toujours curieux. Ah, mais moi je ne le regardais même pas. Et lui qui dit, moi, pas qu'elle ne me regardait pas. Elle mourait pour moi, toutes ces histoires. Et il y en a des milliards. Eh bien, on a fait un programme court où on voit des couples joués par des acteurs, mais sur des histoires vraies. Donc, c'est scénarisé un peu. Ils sont dans un canapé.
C'est vous qui les avez écrites,
ouais,
ces histoires ?
Oui, avec une camarade, Fanny Renberger. Ils viennent et ils nous racontent leur première rencontre.
Mais chacun, face caméra, donc séparément.
Face caméra. Moi, je pose des questions. Et alors, c'est tout le monde tombe amoureux. Vous comprenez ? Tout le monde est tombé amoureux, tout le monde tombe amoureux. Quel que soit son âge, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa culture.
Donc on est tous concernés.
Tout le monde tombe amoureux. Quand un couple raconte comment ils se sont rencontrés, ça pétille dans les yeux. Ça renvoie à ce moment magique où tout est possible.
Mais alors ce programme court, Michel Bougenat, il a déjà un titre.
Et là, oui, ça s'appelle Première rencontre.
Première rencontre, et vous savez quand démarre la diffusion et sur quelle chaîne ?
Je ne peux pas tout à fait vous le dire encore, mais
vous
bon,
pas
c'est
tout
très
à fait
avancé.
Signé, c'est ça ?
Ouais, c'est très avancé. C'est très avancé et on va commencer par 60 épisodes et on va voir comment ça fonctionne. Mais moi, le pilote qu'on a fait, qui est loin d'être parfait, il n'y a pas une personne qui ne m'a pas dit c'est formidable, il faut le faire. C'est très amusant à faire. Et puis on va délirer parce que. Si ça fonctionne, on va pouvoir délirer très loin. C'est-à-dire que moi, je vais faire des deux chiens. Je vais faire deux
mais
chats.
Dites-moi, Michel Bougenat, ouais. Entre Le Marchand de Venise,
parce que les chats aussi
entre
amoureux.
Ce que vous écrivez pour la télé, donc vos programmes courts, la tournée avec le nouveau spectacle Ma vie encore plus rêvée, vous qui n'attendez qu'une chose, c'est découvrir la cordillère des Andes. Il paraît que vous rêvez de partir en voyage. Dans la...
Oui.
Bon,
mais,
c'est
je suis dans la
légèrement
merde.
Compromis là.
Oui, complètement. Bon, ben, je ne serai jamais champion du monde de tennis. Peut-être que je ne traverserai jamais l'Atlantique. Peut-être que je ne serai pas le chanteur que j'aurais adoré être ou le musicien que j'aurais adoré être.
Mais vous savez quoi ? Tout ça, ça rejoint justement ma vie encore plus rêvée.
Ben oui.
N'est-ce pas ?
J'ai acheté une nouvelle méthode pour le piano. Et pour l'instant, j'ai le bouquin. Et j'ai quelqu'un qui va venir me montrer comment ça marche à la maison à Saint-Paul. Et dès
donc
que...
il n'est jamais trop tard pour devenir Mozart.
Je pense que dans mon cas, je ne voudrais pas me décevoir moi-même. Mais cher ami, je pense qu'il commence à être un peu tard pour être Mozart.
Allez,
mais,
la vie mais encore plus rêvée de Michel Bougenat.
Peut-être Beethoven, on hésite bon, encore. Hein, ou Paganini.
On poursuivra cette conversation, n'est-ce pas ? Vous me le promettez, Michel.
Mais je vous le promets.
Bon,
c'est jamais fini.
Je rappelle que la tournée, elle va vous faire sillonner la France et la Belgique. D'ailleurs, vous êtes vendredi au Théâtre Royal de Mons.
Et le lendemain à Arlon.
Et le lendemain à Arlon. Et puis, vous allez vous promener comme ça, de scène en scène, jusqu'à la fin du printemps, n'est-ce pas ? Puisque vous achevez cette tournée les 5 et 6 juin à Antibes. Voilà.
Au Théâtre Antea, qui est sublime.
Qui est sublime. Eh bien, écoutez, c'était épatant de bavarder, de se balader ainsi avec vous. Je vous dis
c'est
à
gentil.
Très, très vite.
Oh, j'espère bien.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est fini. Mais pour aujourd'hui seulement, hein, demain, dès 15h, Isabelle Morizet s'entretiendra avec le médecin cardiologue, le professeur Frédéric Salman. Il revient avec un nouveau livre, Vital, un guide au quotidien pour réussir sa santé.